Alors, vous allez donc partir sur Marseille en vous inspirant, je pense, des communautés américaines. Vous appelez ça le néo-monachisme. Alors, vous allez nous en parler un petit peu. Puisque, en fait, ce qui manquait donc dans la communauté de Taïmé, c'était cette dimension à la fois caritative et cet aspect d'immersion au sein d'une population défavorisée. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est le néo-monachisme?
Voilà, ce qu'on appelle le nouveau monachisme ou nouveau monachisme aux États-Unis, c'est très intéressant parce que c'est des communautés qui sont majoritairement protestantes. Or, dans la tradition protestante, chez nos frères de la Réforme, il y a une certaine défiance depuis Luther par rapport à la vie monastique, le fait d'être célibataire en particulier. Et on voit que dans certains cercles protestants, notamment aux États-Unis, il y a un retour vers des communautés dans lesquelles il y a des célibataires et une référence explicite, par exemple, à la figure de Saint Benoît. Et Saint Benoît, précisément, c'est une figure qui s'est imposée au moment du morcellement de l'Empire romain, de l'époque de l'Europe qui a été fragmentée, divisée par justement des invasions barbares, des chocs culturels et religieux, puisque ces barbares n'étaient pas chrétiens. Et on s'aperçoit par une relecture qui est faite par ces groupes que l'Europe a pu retrouver un degré de civilisation et une unité grâce justement à la présence des monastères et que la tradition monastique elle-même n'est pas simplement une fuite vers le désert, une espèce de fuite du monde humain, de la civilisation, mais qu'au Moyen Âge, au contraire, les moines ont joué un rôle d'évangélisation très important, qu'ils étaient missionnaires et que donc on allait faire des implantations monastiques dans des zones d'Europe dans lesquelles il n'y avait pas forcément des voisins chrétiens. Et alors là, c'est l'idée d'aller habiter comme communauté monastique dans les banlieues déshéritées de la mondialisation, dans les franges de l'Empire, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire dans les quartiers défavorisés. Par exemple, il y a une communauté qui s'appelle The Simple Way, la voie simple, qui a été fondée en 1997, exactement au même moment où nous fondions notre communauté, la Fraternité Saint-Paul à Marseille, dans un quartier pauvre de Philadelphie. Et c'est Shane Claiborne, qui est un Américain, qui a écrit un livre qui a eu énormément de retentissement aux États-Unis, qui s'appelle La Révolution irrésistible, qui malheureusement n'a pas encore été traduit en français, et qui croise bien ces deux aspects, c'est-à-dire des communautés monastiques de célibataires, inspirées de l'intuition bénédictine notamment, qui marque beaucoup la vie monastique en Occident, mais le choix du lieu, cette fois-ci, puisque le moine, on dit souvent l'habit ne fait pas le moine, et moi je dis souvent l'habitat fait le moine. Le choix du lieu va caractériser la vie monastique, et donc on fait le choix d'un lieu où il y a des pauvres. Aux États-Unis, il n'y a pas une forte présence musulmane, mais en France c'est encore plus intéressant puisque les quartiers pauvres aussi sont souvent des quartiers dans lesquels l'islam est devenu la référence culturelle ou religieuse majoritaire. Et donc là, à partir de la tradition monastique qui est une tradition de prière, de travail, et que ce soit à Philadelphie, dans cette communauté ou dans la nôtre, un travail à mi-temps pour avoir du temps pour la prière, mais aussi l'accueil des voisins. Et donc nous, à Marseille, notre choix, et c'est la même chose, je vois, à Philadelphie, dans ces communautés, c'est d'avoir toujours quelqu'un qui, comme un portier du monastère traditionnel, peut accueillir les voisins toutes les après-midi de l'année. Donc à tour de rôle, nous nous efforçons d'être présents. Et à la demande des voisins, par la suite, un certain nombre de services nous sont demandés. Donc c'est aussi une vie monastique qui a une dimension d'accueil qui est dans la tradition monastique, et aussi une dimension, comme vous l'avez mentionné, caritative, d'engagement solidaire à la demande des voisins. Eux nous ont demandé, par exemple, pourriez-vous nous vous occuper d'aider nos enfants à réussir à l'école? Et donc, on a toute cette tradition monastique de rayonnement culturel et éducatif. Les monastères ont souvent été à l'origine des écoles, à l'origine des hôpitaux. Il n'y avait pas de dissociation entre une vie qui serait, paraît-il, purement contemplative, et puis un engagement dans le monde qui est caractéristique de ce qu'aujourd'hui on appellerait l'humanisme, car l'humanisme a ses racines précisément dans ces grandes traditions juives et chrétiennes. Et donc l'avènement de ce nouveau monachisme, c'est arriver à recréer finalement des pôles petits, modestes, mais des vrais pôles de spiritualité et de rayonnement culturel et d'éducation qui permettent d'entrer dans des relations qui progressivement transforment le monde par capillarité. C'est pas tellement une évangélisation où on va aller frapper aux portes, non, c'est les gens eux-mêmes qui viennent frapper à la porte de ces micro-monastères qui sont aussi des micro-lieux de réconciliation dans lesquels les gens vont apprendre à reconnaître la différence de l'autre, à trouver aussi des richesses dans des traditions qui ne sont peut-être pas les leurs au départ, et notamment par l'intelligence, le progrès, par l'accompagnement scolaire. Nous, on fait venir une soixantaine de bénévoles, donc c'est aussi un autre monde, des gens qui ne se croiseraient pas, qui se retrouvent dans notre cité, où on fait église d'une manière un peu originale.
On sait qu'en islam, donc, il y a 5 piliers principaux, on ne va pas les citer ici, mais par contre, pour votre communauté, vous avez donc édifié une charte, en quelque sorte, sur 7 points fondamentaux. Vous allez peut-être nous les rappeler brièvement. Est-ce que donc ces 7 points fondamentaux au sein d'une communauté essentiellement musulmane, que sont vos voisins directs, est-ce que c'est justement au sein de cette cité le signe fort de votre identité chrétienne? Et quelque part, est-ce que on peut peut-être parler d'évangélisation, mais en sourdine?
Ça, c'est une question très importante, difficile et assez subtile. Il y a un rapport, effectivement, dans tout homme, et un rapport entre son identité profonde, c'est-à-dire qu'il faut être soi-même, sinon ce serait se condamner à devenir quelqu'un d'autre, ou de ne pas être pleinement tout ce qu'on est, donc de ne pas donner à l'autre tout ce qu'on est en mesure de lui donner. Et puis en même temps, parfois les gens peuvent considérer l'identité comme quelque chose de conflictuel et de dérangeant, ce qui est parfois le cas. Et pour ce qui est des chrétiens, on voit bien que dans l'identité de Jésus, qui est l'homme fraternel par excellence, il se heurte à un monde qui n'est pas capable de l'accueillir, c'est-à-dire certaines personnes vont le rejeter violemment et même le supprimer. Donc il y a en fait deux logiques qui sont très bien décrites par Madeleine Delbrel, une grande mystique qui a été assistante sociale dans une banlieue rouge communiste de Paris. Et Madeleine Delbrel disait que finalement, ces deux logiques étaient les suivantes. Il y a d'une part une logique d'alliance qui va vous mettre en partenariat avec des gens qui ne pensent pas forcément comme vous en tout point. À son époque, c'était les communistes qui croyaient que Dieu n'existait pas, mais qui luttaient pour la justice sociale, et le chrétien se devait de lutter avec eux pour la justice sociale. Et par contre, eh bien, sur la question de Dieu, elle était plutôt dans une logique qu'elle appelait une logique de salut, dans laquelle elle proclame, peut-être surtout par sa vie, mais ça n'interdit pas aussi de prendre la parole si les gens vous posent des questions, eh bien oui, la réalité d'un Dieu qui se fait connaître au monde dans l'histoire, le Dieu de Jésus-Christ, et donc ça pouvait la mettre parfois en opposition, et en tout cas dans une posture qui parfois peut comporter une certaine souffrance. Donc cette question d'identité est très importante. Quand on est minoritaire, ce qui est notre cas comme chrétien dans un environnement musulman, ou comme c'était le cas de Madeleine Delbrel dans un environnement communiste, il est très important de pouvoir se ressourcer. Alors le Dieu des chrétiens, ce n'est pas un Dieu de l'observance. Donc nos 7 piliers, voilà, il s'agit de quelque chose d'assez pragmatique qui permet de fonctionner dans un environnement particulier. Il ne s'agit pas de les absolutiser, mais il y a d'une part un pilier qui est celui d'avoir une communauté de base qui est une communauté de célibataires, une communauté monastique. La prière, tout simplement. Aussi le choix du lieu qui pour nous est très important et qui est donc le choix d'un lieu plutôt déshérité et dans lequel il y a beaucoup de personnes étrangères à l'église. Enfin, le choix d'un travail à mi-temps pour se donner une vraie disponibilité par rapport à la prière et au quartier, mais aussi l'entraide, c'est-à-dire être ouvert à des formes de solidarité avec le quartier, l'accueil, tout simplement pouvoir accueillir les gens, et enfin le lien avec la paroisse, puisque nous ne souhaitons pas faire une église parallèle, mais au contraire articuler cette présence comme un relais d'église par rapport à des unités plus importantes comme celle de la paroisse ou du secteur paroissial, et puis enfin raccorder par ce biais à l'église universelle. Donc il ne s'agit pas de se faire une petite secte dans son coin. Donc il y a une identité forte qui est une identité d'église, une manière pour ce qui nous concerne de ne pas nous cacher par rapport à nos voisins, et on a clairement affiché notre identité chrétienne. Quand on vient dans notre appartement et c'est là que nous recevons nos voisins, il y a des icônes partout, il y a des croix. Pour les musulmans, Jésus n'a pas été crucifié, c'est ce que nous dit le Coran. Eh bien, il y a des crucifix chez nous. Il a pu arriver qu'au début, des enfants ne veuillent pas venir chez nous pour cette raison, pour d'autres raisons, parce qu'on était chrétien. On ne se cache pas du tout de notre identité chrétienne, et la réaction de la plupart des musulmans, la majorité de nos voisins, c'est au contraire un grand respect pour des gens qui sont des gens du livre, comme ils disent, expression à mes yeux erronée, mais qui exprime une certaine proximité par nos racines bibliques, même si pour les musulmans, donc dans la version en tout cas coranique, nos écritures auraient été selon eux falsifiées. Mais il reste que nous faisons partie des gens qui sont les plus proches d'eux dans leurs écritures, de leur foi abrahamique. Donc la question de l'identité est importante dans un contexte musulman. Je crois qu'on a plutôt à gagner à affirmer notre existence chrétienne, mais sans aucune hostilité avec les personnes. Et nous essayons de faire la distinction entre l'islam, qui est un corps de doctrine, un certain nombre de pratiques, et puis les musulmans, c'est-à-dire que les personnes qui nous entourent peuvent se définir comme musulmans. Elles se définissent souvent comme musulmans avec des critères divers. Il y a des gens qui vont aller à la mosquée tous les vendredis, ils sont très peu nombreux. Il y a des gens qui vont faire le ramadan, faire une partie du ramadan, d'autres qui vont simplement fêter leurs deux grandes fêtes de l'Aïd. Et puis des gens qui vont se dire musulmans sans être du tout pratiquants. Il y a les musulmans qui mangent du porc, ceux qui n'en mangent pas, ceux qui boivent de l'alcool ou non. Et donc les définitions de l'identité des autres sont différentes. Ce qui est très important en termes d'identité, c'est de pouvoir découvrir progressivement, à la fois pour nous-mêmes et dans le regard de nos voisins, que le Dieu que nous proclamons, c'est un Dieu fraternel. Que notre mission, ça n'est pas de convertir les autres. Mais notre mission, c'est d'être convertis nous-mêmes. C'est-à-dire, pour reprendre la parole de saint Athanase, de devenir Dieu. Souvent, ça fait sursauter mes auditoires chrétiens. Nous ne sommes pas une secte, mais pourtant, nous affirmons quelque chose d'énorme, c'est que nous pensons que notre vocation chrétienne, c'est de devenir Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est un Dieu fraternel, c'est l'amour. Et Christophe le Breton, ce frère de Tibérine le plus jeune qui a été assassiné à l'âge de 45 ans et que j'ai connu à l'abbaye de Tamier, voulait être missionnaire quand il était jeune. Et j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Prier 15 jours avec Christophe le Breton » qui a été publié par les éditions Nouvelle Cité. Et j'ai retrouvé une de ses lettres juste avant sa mort où il dit, lui qui avait toujours voulu être missionnaire, il dit « Je découvre de plus en plus une mission, devenir frère ». C'est-à-dire que cette mission, c'est une mission qui consiste à obéir à ce seul commandement que nous a laissé Jésus, c'est-à-dire de nous aimer les uns les autres, d'aimer jusqu'à nos ennemis comme Jésus lui-même a aimé ses ennemis. Donc, il n'y a là aucune menace prosélyte par rapport à nos voisins. Nos voisins se situent par rapport à cette réalité d'un témoignage évangélique qui est un témoignage d'amour fraternel. Et cela déclenche des discussions qui sont des discussions d'ordre théologique. Par exemple, une de nos petites voisines qui vient catastropher un soir en lui disant « On m'a dit que vous n'alliez pas aller au paradis parce que vous êtes chrétien. » Et comme cette réponse ne la satisfait pas sur la base du témoignage, c'est-à-dire qu'elle voit qu'on aide tout le monde dans le quartier, qu'il y a de l'accompagnement scolaire gratuit, etc., elle repart à l'attaque auprès de son père et son père trouve finalement un imam qui lui dit bah, « si les chrétiens font du bien, ils peuvent peut-être aller au paradis ». Et donc voilà que notre petite voisine est soulagée. Et ça, c'est ce qu'on appelle du dialogue intra-religieux, c'est-à-dire entre les musulmans. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent avec eux. Donc c'est très important de voir que notre témoignage humain peut avoir des conséquences dans la réflexion théologique de nos voisins musulmans. C'est un travail de longue haleine qui est celui de notre propre conversion. Dans quelle mesure notre témoignage est un témoignage de ce Dieu fraternel ?
Alors, dans votre livre, je crois qu'à un moment, il y a un de vos voisins qui vient et qui vous dit « Qu'est-ce que vous faites exactement ?» Et vous lui répondez « Nous ne faisons rien », textuellement. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Que, si j'ai bien compris, vous êtes plutôt une présence bienveillante et accueillante donc, au sein de cette communauté, placée donc sous le signe de la fraternité, en quelque sorte un pur don. Est-ce ainsi que vous concevez donc l'imitatio Dei, donc à l'image du Christ qui était le pain descendu du ciel, pur don ? Et vous n'êtes pas sans savoir, puisqu'on parlait justement juste avant de théologie, ce qui oppose notamment l'islam et le christianisme au niveau du dogme, c'est essentiellement la crucifixion. Et puis c'est le fait que Jésus ne soit pas considéré comme le fils de Dieu, mais uniquement un prophète. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les musulmans attendent quelque part les preuves de la résurrection. Est-ce que vous vous sentez porteur à votre humble niveau, de cette tâche, en quelque sorte, puisque vous disiez tout à l'heure, nous sommes appelés à être des hommes-dieux, ou des dieux.
Oui, c'est ça, nous sommes théophores, nous sommes tous des Christophes, Je parlais de frère Christophe, qui avait une conscience vive de cette mission qui lui venait de son prénom, c'est-à-dire nous sommes porteurs du Christ, et qu'en fait, la seule mission du chrétien, c'est d'être suffisamment lui-même transformé à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, et donc tout le travail spirituel consiste à recouvrer cette image de Dieu, qui est à la fois une image qui ne s'impose pas, puisqu'aujourd'hui encore on parle de la nature divine du Christ Jésus, c'est-à-dire que apparemment Dieu s'impose tellement peu qu'on peut encore discuter, c'est pas évident pour tout le monde. Et de la même manière, nous ne souhaitons pas nous imposer. Il nous paraît important de vivre ce mystère de l'incarnation pascale, c'est-à-dire ce mystère de l'Esprit de Dieu lui-même, qui vient habiter parmi nous et qui vient habiter parmi nous jusqu'à donner sa vie. Donc effectivement, on est dans le mystère du don. Et auprès des musulmans, la difficulté, c'est que l'islam comme doctrine théologique On pourrait dire que dogmatiquement, cette doctrine, qui pourrait paraître proche du christianisme, puisqu'elle fait référence au Dieu unique et que les chrétiens pensent aussi que nous situons dans cette tradition juive du Dieu unique, mais qu'en même temps, l'islam, comme corps de doctrine, est une représentation de Dieu qui peut être considérée comme dogmatiquement antichrétienne, c'est-à-dire pas simplement neutre, mais antichrétienne, puisque, comme vous l'avez dit, elle s'oppose à l'idée même d'un Dieu qui s'incarne. Donc Jésus n'est pas fils de Dieu, c'est simplement un très grand prophète. Et puis Jésus n'a pas été crucifié, c'est-à-dire l'idée qu'un Dieu puisse faire cette épreuve de la mort, passer par l'épreuve de la mort et de la souffrance et se donner à travers ce mystère de Pâques et le mystère de la crucifixion, lui est totalement étrangère. Donc il s'agit non pas de se lancer dans des grandes diatribes sur ces questions, puisque de toute façon elles nous séparent, et face à l'obstacle, au lieu de chercher à sauter l'obstacle, qui paraît a priori beaucoup trop élevé, il s'agit de faire comme Dieu lui-même, le Dieu des chrétiens, lui est passé par en dessous l'obstacle, c'est-à-dire que, ayant des difficultés à se faire connaître pleinement à sa créature, il a décidé de se faire homme, et de se faire homme jusqu'à l'abaissement suprême, d'être condamné par ses créatures injustement, et de vivre ce mystère de la croix, et de faire connaître donc sa toute-puissance, douceur, son amour total, son respect absolu du cœur de l'homme, et de faire connaître donc cet amour sans limite. Donc vis-à-vis de nos voisins, le défi est très grand, mais c'est aussi un défi pour nous de reconnaître, et bon, par exemple dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 25, on le voit, tout ce qu'on fait au plus petit d'entre nos frères, c'est à Dieu qu'on le fait, et donc Dieu est présent là, dans les étrangers que nous accueillons, dans le pauvre que nous aidons à réussir à l'école par exemple, et donc il s'agit de découvrir Dieu dans nos voisins musulmans, le Dieu des chrétiens. Le Christ est là aussi chez nos voisins. Donc ils ont eux aussi cette mission peut-être inconsciente, mais de nous apporter cette richesse de Dieu qui parfois se manifeste par des magnifiques gestes de fraternité, puisque nos voisins sont les premiers à nous offrir des magnifiques chorbas ou d'autres plats du Maghreb, comme ça, gratuitement, sans qu'on n'ait rien demandé. Donc il y a des expressions de fraternité transconfessionnelle, et vous faisiez mention tout à l'heure de ce jeune, effectivement, qui, quand on est arrivé dans le quartier, me parlait les yeux fermés, parce que je portais une croix, et me disant que voilà, le Coran lui interdisait de regarder cette croix, et je lui disais que moi j'avais lu plusieurs fois le Coran et qu'il n'y avait aucune sourate, aucun passage du Coran qui interdisait de regarder une croix. Et c'est pas du tout ce discours religieux, théologique qui l'a convaincu, mais c'est plus tard, quand il s'est rendu compte que ses amis venaient jouer au Scrabble chez nous et qu'ils avaient l'air de bien s'amuser, il est venu jouer au Scrabble, et pour gagner la partie, il fallait ouvrir les yeux. Donc c'est la réalité d'un voisinage humain qui a fait qu'il a pu communiquer. Et un an après, à l'accompagnement scolaire, entre deux équations de mathématiques, il nous disait « Finalement, j'ai réalisé que vous pourriez habiter ailleurs, vous êtes venu habiter ici pour nous ». Donc ce secret messianique, comme on l'appelle dans les Écritures, cette reconnaissance progressive des hommes de l'identité réelle de Jésus, elle est aussi à l'œuvre dans nos relations avec nos voisins, qui reconnaissent, à travers un certain nombre de gestes, la présence de ce Dieu fraternel, sans forcément au départ nécessairement le nommer.